Ville-Monde. Cap sur l'imaginaire. Après l'Orient extrême, Bangkok et avant Macao bientôt, Ville-Monde quitte la mer de Thaïlande pour la mer des adieux, la mer des silences, l'océan neptunique, voyage vers la jungle septentrionale, Alaxis, Urbicande, des villes, des lieux sur la carte d'un pays imaginaire, les cités obscures. Ville mystérieuse et rêvée par Peters et Skuyten dans leur célèbre bande dessinée. Les deux explorateurs nous embarquent sur la route des cités obscures pour les mettre en lumière. Ville-Monde imaginaire cités obscures, première escale. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
Cités obscures, un passage entre deux mondes, Laurent Védrine, Céline Terce. Paris, quartier des arts et métiers. Nous entamons notre plongée vers le monde des cités obscures, plusieurs mètres sous terre, sur le quai de la ligne 11 du métro, avec l'écrivain et scénariste Benoît Peters.
Cette station, c'est pas tout à fait une station comme les autres. Ici, on voit ces parois de cuivre qui occupent absolument tout. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une machine. Hein, c'est du vrai cuivre quand on le touche. Là, il n'y a pas de doute. On n'est pas dans un décor. On n'est pas dans de la simulation. Des rouages énormes au-dessus du métro, comme si c'était pris dans une machine beaucoup plus vaste. Et puis, une série de petits hublots qui peuvent faire penser à une sorte de nautilus souterrain. Moi, c'est ce à quoi je pense tout de suite. Ces hublots, ils ouvrent sur des petits mondes, mais comme si on était plutôt dans un bateau alors qu'on est sous la terre. Et évidemment, on sent que cet univers technique, cet univers fin 19e, qui peut évoquer non seulement 20 milieux sous les mers, mais d'autres romans de Jules Verne, il n'est pas sans rapport avec ce monde des cités obscures. En fait, on est dans une station que beaucoup considèrent comme un lieu de passage vers le monde des cités obscures. Alors, je sais qu'il y a des gens que ça laisse perplexes ou sceptiques. Je ne vous demande pas forcément de partager ma conviction, mais en tout cas, reconnaissez que c'est un lieu un petit peu inhabituel. Et on peut dire que tout ce qui concerne les cités obscures m'intéresse de près, ainsi que mon ami François Skuyten, dessinateur. Nous avons eu très jeune un accès privilégié à ce monde, par un voyage unique qui nous a permis d'y passer quelques jours, d'y recueillir des documents sans photographie. François n'avait qu'un carnet de croquis avec lui.
C'est passé ici ?
Non. Non, ça s'est passé à Bruxelles, où je vivais à l'époque, où François vit toujours, dans le palais de justice de Bruxelles, qui est un dédale, qui est un labyrinthe. Et donc, on s'était perdu dans les sous-sols. C'est un lieu où on voyage assez facilement, en fait. On ne vous demande pas grand-chose, c'est tellement grand. Et nous nous sommes retrouvés à la sortie, non pas du palais de justice de Bruxelles, mais du palais des trois pouvoirs de Bruxelles. Ça peut vous sembler tout proche. On pourrait croire que c'est simplement la prononciation flamande ou anglaise ou allemande du nom, mais pas du tout. Et puis les villes dont on nous parlait, les noms de villes qu'on nous citait autour de Bruxelles, ce n'était pas Amsterdam, Paris, Londres. C'était Alaxis, Urbicande, Xistos. Et on a voyagé dans ce monde assez étrangement. Nous en sommes sortis sans bien comprendre comment. Nous n'avons réalisé qu'après coup l'importance de ce qui s'était passé. Et depuis, à partir des croquis de François, à partir des notes que j'avais prises, puis surtout de notre mémoire, on était très jeunes, on avait une mémoire très fraîche, très intacte, on a démarré ces récits. Et puis, il y a quelques personnes autour de nous qui partagent la conviction que certains lieux privilégiés seraient comme des points de jonction et que dans des circonstances particulières, des personnes
pourrait en profiter pour transiter, pour passer, pour glisser.
Bureau central des archives. Rapport sur un curieux cas de monde parallèle. Je m'appelle Isidora Louis. Lorsque me fut demandé ce rapport, l'affaire des cités obscures n'avait encore qu'une ampleur des plus réduites. Certains prononçaient ces mots avec ferveur, d'autres pour s'en moquer, mais la plupart les ignoraient. Et pourtant, ma première surprise vint de l'abondance, de la variété et de l'intérêt des documents que je ne cessais d'exhumer.
La piste des cités obscures continue à Bruxelles un matin à l'angle entre la rue des Bouchers et les galeries de la Reine.
Nous sommes de Radio France.
Oui,
je cherche un endroit qui s'appelle le passage des cités obscures. On vous a dit de venir par là.
Oh purée, aucune idée mon pote. Pourtant ça fait 31 ans que je suis là. Vous n'avez pas une autre adresse que le passage obscur.
C'est même pas sur la carte.
Le passage obscur.
Des cités obscures.
À la rigueur, vous avez... oui, vous avez un truc qui vaut la peine. Donc c'est en dessous des galeries, bon, qu'on a découvert il y a quelques années, mais...
En dessous ici?
Ouais.
Comment on accède à cet endroit?
Eh bien, vous allez ici, à droite, et vous allez voir la Belgique gourmande. Il faut acheter un ticket, vous rentrez, vous descendez. C'est en faisant des travaux qu'ils ont découvert. C'est une galerie, alors c'est grande, hein, attention, il fait quand même 400-500 mètres carrés. Hein. À mon avis, ça doit être ça, parce que je ne vois pas d'autres trucs obscurs ici dans le quartier.
Ça va, chef?
Oui, moi non, mais elle est... Tu vas pas savoir. La cité obscure, ça te dit quelque chose?
Passage des cités obscures.
Absolument pas.
Bon non plus, hein.
Mais moi, j'habite dans les galeries.
Oui, mais moi...
J'ai jamais entendu parler.
Bon, ben, on va voir...
C'est trop obscur pour nous.
Au numéro 1.
Merci. Au numéro 1.
Oui, à droite.
Ok, merci.
Désolé, hein.
C'est rien, merci.
Avec mes excuses.
La plupart des témoins crédibles qualifient le monde des cités obscures de reflet décalé de la Terre. Un monde en miroir, mais sensiblement plus petit, et de surcroît invisible depuis notre planète, comme s'il était victime d'une éclipse permanente.
À la Belgique gourmande, chocolaterie.
Passage vers les cités obscures. Et on nous a dit qu'il y avait un passage souterrain ici.
Il y eut, mais il a été bouché.
Il a été bouché.
Ouais.
Alors il s'agissait en fait d'un passage qui menait vers l'histoire, l'ancienne histoire de la ville de Bruxelles. En fait. Des marécages que furent Bruxelles. Et il y a quelque temps, il a été bouché. En fait. Donc maintenant, on n'y a plus accès. Sauf si vous trouvez ailleurs d'autres accès. Passer derrière et on accédait aux anciens passages qui étaient sous les galeries. Parce que les galeries sont toujours des lieux de passage d'ailleurs. Hein. On passe d'un monde à un autre. Ça a été construit sur un lieu de passage au début qui était un coupe-gorge, hein, ce quartier-ci au départ. Et on a donc effacé, éradiqué ce quartier pour en faire les belles galeries qu'elles sont à l'heure d'aujourd'hui.
Merci.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Bon voyage.
Entre nos deux mondes, les différences sont parfois minimes. Des personnages, des œuvres et des lieux apparaissent des deux côtés de façon presque identique, comme Bruxelles et Bruxelles. Mais d'autres fois, les différences sont considérables. Ainsi, certaines technologies, certaines villes et la plupart des phénomènes climatiques n'ont pas chez nous le moindre équivalent.
Monsieur.
Alors, on cherche un endroit qui s'appelle Bruzel. On n'est pas d'ici.
Bruzel ?
Brusel. Ou passage des cités obscures. Ça vous dit rien. On a un peu du mal depuis ça.
Ils vous ont donné un plan ou pas ?
Non, ça c'est un autre endroit où on doit aller après.
Ça me fait bien.
Et passage des cités obscures, vous avez rien dans le guide aussi ?
Non, passage, je pense pas qu'on en aura. Ça peut pas.
Alors. Parce que du coup, vous avez passé le concours, vous devez connaître toute la ville par cœur ou quoi ?
Ah, bah on va pas tout connaître, mais.
De m'aider, de demander là pour un endroit qui s'appelle le Bruzel.
Café Bruegel, non ?
Non, c'est pas Bruegel, c'est Bruzel. Brusel.
C'est un café ?
Non, je pense pas, c'est une rue. Hein.
Non, non, soit une rue, soit un quartier, appellation. C'est un lieu.
Non, ça va, merci, merci.
Okay.
Non, mais ça, je dis. J'ai jamais entendu, il y a des endroits qu'on connaît, hein, mais ça j'ai jamais entendu.
Monsieur Le Guêpe, vous êtes là ?
Oui, oui, je suis là, je vous cherche.
Je vous rejoins.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Mais c'est supposé être la Seine, qui est une rivière qui traversait Bruxelles. Qui a un peu disparu après toutes sortes de transformations et c'est devenu un endroit absolument dégoûtant. On voit quelques poissons, je ne sais pas comment ils survivent. Et c'est voûté. Là.
Et c'est une rivière souterraine, cachée ?
C'était la rivière qui traversait Bruxelles et puis qui a été recouverte quand on a fait la jonction Nord-Midi, qui traversait toute la ville.
Quand est-ce que ça s'est passé, tous ces travaux ?
En fait, ça a duré très très longtemps. Je crois que ça a duré 40 ou 50 ans. C'était encore un des chantiers complètement délirants et mystérieux qui ont défiguré Bruxelles.
On pourrait peut-être aller à un endroit plus à l'abri des regards pour en parler.
À l'abri des...
Des oreilles.
Oui, des oreilles indiscrètes.
Je m'appelle Wilbur Legube, je suis réalisateur à la télévision belge. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a déjà pas mal d'années, je pense qu'il y a 18 ans, en 95, j'ai été voir François Skeuten et Benoît Peters, que je connaissais déjà un petit peu. Et ils m'ont dit, on voudrait te montrer des documents sur lesquels on s'est basé pour écrire notre bande dessinée, parce qu'on pense qu'il y a une bonne investigation à faire. C'était à l'occasion de la sortie de leur bande dessinée Bruzel. Et donc, avec une journaliste, Claire de Villers, on a commencé donc à fouiller dans cette masse de documentation que François et Benoît avaient réunie pour construire leur bande dessinée. Et là, on est tombé évidemment sur des choses très surprenantes, enfin, qui se retrouvent dans le film Dossier B.
Premier fait troublant. L'abandon des travaux du métro en dessous de la place Louise, en plein cœur de la ville. Il existe bien un premier niveau qui fonctionne normalement, mais ce que peu de Bruxellois savent, c'est qu'il existe un second niveau.
En fait, donc, les documents que Skeuten et Peters nous avaient donnés, qui étaient des documents un peu épars dans lesquels il fallait mettre un peu de l'ordre, faisaient allusion à une ville parallèle, qui s'appellerait Bruxelles, que la ville de Bruxelles actuelle essaye de reproduire à l'identique en faisant des travaux complètement aberrants sur le plan urbanistique. Donc on se dit, logiquement, n'importe quel habitant de Bruxelles un peu sensé se dit, mais il y a une raison derrière tous ces travaux absurdes, enfin, qui se sont un peu calmés d'ailleurs depuis quelques années, mais je crois que ça me met surtout à l'existence, ou non d'ailleurs, parce que c'est comme on n'a jamais finalement réussi à vraiment le démontrer, mais à l'existence d'une secte, je ne sais pas si on peut appeler ça une secte ou une société secrète, enfin, qui remontait à très très loin et qui impliquait des gens très connus. Mais par exemple, on a posé la question à Paul Van den Boenens quand même.
Qui est, pardon ?
Paul Van den Boenens, c'était un personnage très très important dans la vie politique belge. Il a été ministre, je pense qu'il a été premier ministre, il a été président de parti. Et à la fin de sa carrière, il a été enlevé. Et il a disparu pendant quelques semaines, de manière complètement incompréhensible. On n'avait retrouvé que sa pipe. Puis il est revenu, et dans une conférence de presse qu'on voit dans le film, il déclare « Je ne sais pas où j'étais, mais j'étais loin », enfin quelque chose comme ça.
J'ai pris contact avec Christian Van der Velde, l'explorateur des sous-sols bruxellois.
D'abord, j'ai retrouvé un grand souterrain. Et puis, j'ai commencé à chercher rue par rue, maison par maison, cave par cave, en vérifiant s'il y avait une entrée de souterrain, s'il n'y avait pas d'entrée de souterrain. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé 41 km de souterrain et pratiquement 74 entrées et sans y avoir un site inconnu.
Est-ce que vous croyez que ces souterrains pourraient mener à des passages secrets ?
Ah, sûrement.
Sûrement ?
Oui.
Et vous croyez que ces passages secrets pourraient mener à une ville parallèle ?
Ça, c'est... c'est quand même relativement... c'est difficile à dire.
Bon, on s'est vraiment demandé, mais est-ce que c'était possible, tout ce qu'on découvre, voilà, donc... Et sur base de ça, donc, on est allé consulter un physicien, Edgar Munzik, avec qui ça a été aussi une rencontre très, très étonnante, puisque lui était entré tout de suite dans ces questions-là, en nous disant, mais vous savez, moi, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, sur la question des univers parallèles, des passages dans l'espace-temps. Donc, tout en disant bien que lui, s'il examinait de façon mathématique et théorique, il n'était pas question qu'il déplace des objets, mais enfin, bon, pour lui, c'était tout à fait crédible et acceptable.
Bruxelles, quartier des Marolles, dans la salle des pas perdus du palais de justice avec le dessinateur François Skuyten.
Alors vous connaissez un petit peu cette histoire de ce bâtiment incroyable, si mystérieux, si étrange, enfin, tout ce qui lui arrive depuis sa construction jusqu'aujourd'hui est fait de choses presque inexplicables. Vous savez, quand vous avez un bâtiment qui a été comme ça, où il y a eu tellement de choses contradictoires, manifestement des plans pas respectés ou en partie, enfin, l'architecte lui-même, je crois, à un moment donné, a dû s'y perdre, il y a eu des conflits homériques dans la construction. Donc, il y a des bizarres multiples. C'est un bâtiment emblématique, mais en fait abandonné. Vous savez qu'il y a des échafaudages depuis 30 ans. C'est pas normal. Vous savez qu'on en est maintenant, non pas à vouloir restaurer le bâtiment, mais à vouloir restaurer les échafaudages. Donc, tout ça nous montre bien qu'on n'est plus du tout dans la logique. On a échappé à toute raison. Et c'est pas pour rien que c'est un lieu, je dirais, de passage.
Force est même de constater, depuis quelques années, une augmentation sensible du nombre de passages et sous des formes souvent inattendues, même si le tourisme, au sens où nous l'entendons chez nous, n'a pas encore touché le monde des cités obscures.
Vous voyez, c'est extraordinaire, il n'y a jamais personne ici. Tous ces endroits sont vides.
Tout est en accès libre.
Tout est en accès libre.
C'est gigantesque.
C'est gigantesque.
Labyrinthique et, ouais, et ouvert.
Regardez comme la température a changé. Regardez, c'est incroyable, hein ? Dans un seul bâtiment, en quelques marches, vous êtes dans un endroit beaucoup plus froid et beaucoup plus humide. En quelques marches. Mais si avec ça, regardez ici, c'est un endroit très très abandonné. Énormément d'humidité.
presque des champignons, il y a des traces de moisies. Et donc c'est là où on a été extrêmement troublés, nous. C'est quand on s'est perdu ici avec Benoît. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment, de pas se perdre, c'est pas très très difficile, sauf qu'on n'a jamais retrouvé vraiment l'endroit exact. Parce que c'était en fin de journée, il faisait un peu sombre. Bon, il y a des salles qui s'ouvrent, il y a des salles qui se ferment, enfin... Tout ça est un peu...
Les repères se brouillent.
Les repères se brouillent. Et alors, il y a des escaliers murés. Donc, vous avez des débuts d'escaliers. Brusquement, vous avez un mur qui ferme ça. Et c'est là où on a perdu pied. C'est qu'il y avait un autre escalier qui était du même ordre, exactement le même, qui lui était ouvert. Et qu'on a pris. Et on ne l'a jamais retrouvé, sûr. Et là, on sait qu'on atteint des sous-sols et des choses comme ça. Mais à quel niveau on était? Et donc, on est sorti, on ne s'est pas rendu compte. Et puis, c'est là où on s'est dit, tiens, mais il y a plein de choses bizarres, on ne reconnaît pas vraiment le quartier. Donc, cette ville est un petit peu comme une espèce de décalage, de ville miroir. En fait, c'est comme une ville parallèle, quoi. Ça, c'est quelque chose, peut-être qu'on avait halluciné, ça, c'est possible, en tout cas.
On a posé la question, parce que c'était une...
On n'avait rien pris. Donc, c'est un petit peu de là qu'est parti ce voyage, quoi.
D'une heure, nous survolons Bruxelles. Un long moment, je suis resté collé au hublot, ne voulant pas perdre une miette du spectacle panoramique qui s'offrait. Jamais je n'aurais cru qu'une telle cité pouvait exister. Des immeubles immenses s'élançant vers le ciel, tels des grands peupliers, des autostrades, des ponts suspendus, des gares aériennes, et partout d'énormes dirigeables qui traversaient l'horizon.
La ville et aller dans d'autres directions, mais surtout on s'est beaucoup renseigné, on a vu des cartes, on a essayé de comprendre comment on fonctionnait, et c'est là où c'était troublant de voir des choses qui étaient très différentes, des villes qui étaient très importantes dans notre monde, mais qui étaient comme des échos, mais très fragiles dans ce monde-là. C'était très étrange tout ça, on n'arrivait pas très bien à comprendre. Je sais qu'on a dû prendre plusieurs moyens de locomotion. Toujours très compliqué de se déplacer dans les cités obscures. C'est jamais un seul système qui fonctionne. Et en plus, on a l'impression que le système fonctionne pour l'aller, mais on a pris un autre système pour revenir. Qu'on comprenne qui peut. Mais quand on est comme ça, on est quand même tellement content de découvrir ça qu'on ne fait pas la fine bouche. Alors, il faut voir si c'est dans cette partie-là de la carte. On était. Voilà. Bien dans le nord, vous voyez. On est vraiment dans le nord.
Il y a des cartes éditées là-bas.
Il y a des cartes, absolument. Il y a des cartes. En fait, la cartographie est un métier très important dans les cités obscures. Vous savez, c'est vraiment quelque chose avec ce fameux centre de Galatograd. C'est vraiment un gigantesque centre cartographique. Et là, en fait, ils ont tout un système d'arpenteurs, de dessinateurs qui vont sur les sites prendre note, faire des relevés. Et tout ça est concentré, analysé et mis en carte. J'aimais bien la façon dont ils dessinaient les forêts et tout ça, je trouvais ça assez joli. Mais en fait, ce qui est assez amusant dans ce genre de carte, c'est qu'on voit les montagnes, on les voit un peu comme si c'était dessiné. Vous ne les voyez pas en plan, vous ne les voyez pas comme si vous les regardiez d'un avion. Donc c'est assez joli, ça. On se rend mieux compte.
Qu'est-ce que vous voyez comme indication ?
Ah ben là, écoutez, vous voyez le mont Chkodra, le mont Makoubi, le mont de Taraboche, le mont Kadaré, la forêt Rizzoli, le bois de Kosmoun. C'est une reproduction assez fidèle d'une des cartes. Maintenant, pour être tout à fait franc avec vous, on en a découvert d'autres qui étaient un peu contradictoires. Ils avaient l'air d'accepter, de trouver ça normal. Après, en allant sur place, on a découvert que ça correspondait quand même plus ou moins bien. Il y a des choses qui sont assez justes, là, dans cette carte-ci.
Ah,
est amusant, c'est de voir les liens entre nos deux mondes. Il y a des choses qui fonctionnent en ligne directe. On se dit, tiens, mais... Ah oui, on sent bien que c'est ça. Il y a des correspondances et puis des choses qui n'ont plus rien à voir.
Et eux sont curieux,
oui,
inversement, de notre monde.
C'est toute la différence. Ah. Autant nous les ignorons, autant eux nous écoutent quelque part. Là, le son a beaucoup d'importance. Ils nous écoutent.
Des micros ?
Je ne sais pas. En tout cas, il y a d'immenses salles. Et Galatograd est au cœur de ça. Il y a d'immenses salles gigantesques, sphériques, où on voit l'entièreté du globe terrestre et des tas de gens qui détectent, qui sont comme là pour ausculter le son de la Terre. Ils sont très, très inquiets des lieux de passage, évidemment. C'est à ce moment-là que les choses sont déstabilisantes. Pourquoi ça se passe ? Où ça se passe ? Quand ça se passe ?
Parce que ni eux, ni nous ne maîtrisons ce...
Nous, on est courant de rien. On voit bien, on est dans un monde assez rationnel. Ça n'intéresse pas beaucoup à ce genre de choses. Il y a des gens qui quelquefois, évoquent ça, mais d'une façon un peu métaphorique, un peu littéraire. Dès qu'on en parle un petit peu sérieusement, on vous prend pour un cinglé.
Mais eux, par contre... arrive un peu à nous.
Ben oui, oui, mais bon courage. D'après moi, l'émission, elle passera jamais. Ne vous en faites pas. À un moment donné, on arrête ça. C'est pas sérieux. Une grande chaîne publique.
Office des passages obscurs. Formulaire de découverte d'un lieu de passage. Jour, heure, pression atmosphérique, degré d'hydrométrie, latitude, longitude, altitude, magnitude, béatitude. Toutes les données qui sont demandées ici sont facultatives. Merci cependant de préciser si vous avez reçu l'aide d'un passeur et si ce passage vous semble encore accessible.
Institut géographique national, 3e sous-sol, à la recherche de Bernard Bèze, cartographe. Cambodge, Chine, administratif, carte générale, Bahamas, Amérique du Nord, échelles diverses et variées, voies de communication, Alaska, Canada. Indochine, communication, télécommunication, Cochinchine, géologie. Carte du Caucase. Carte chinoise et de Franche-Comté. Carte de Garonne et de 1938.
De l'armoire 443, nous trouvons effectivement une carte de la Sodrovno-Voldachi qui est caractérisée carte physique à une échelle du 100 000e. Cette carte est une carte recto-verso avec d'un côté le zoom sur la Sodrovno-Voldachi et de l'autre côté l'ensemble du continent des cités obscures dont vous voyez ici la Sodrovno-Voldachi n'est qu'une faible partie. Mais il y a à côté de ça le grand désert des Sémonites. On retrouve ici Paris avec une orthographe P-A-H-R-Y hein, qui est légèrement différente de celle qu'on connaît habituellement. Vous avez des noms d'origine grecque, Milo. Vous avez Orsena, une île qui s'appelle Orsena. Le lac Nemo, hein, référence à Jules Verne. Il y a les aventuriers, les explorateurs d'un côté, et de l'autre, il y a le cartographe ou le géographe qui est plus un artiste et qui va essayer de traduire en images les récits des voyageurs. Donc, Nous, en l'occurrence, on s'est fié aux informations que nous fournissaient ceux qui y sont allés et ceux qui connaissent le terrain. Puisque là, je dois dire que ça doit être le seul continent sur lequel on n'ait aucune photographie aérienne pour s'appuyer.
Cette carte dont vous connaissiez l'existence, puisqu'on est venu vous voir, est-ce que c'est un document qui est connu dans le milieu des cartographes, des géographes? Est-ce qu'il y a une initiation? Est-ce que c'est donné à tout le monde de voir ce document ici?
Je dois dire, sont des documents relativement confidentiels, car leur tirage a été soigneusement limité. Et c'est une carte qu'on ne trouve pas dans toutes les librairies, c'est clair.
Et là, il y a par exemple devant nous des plans de ville. Il n'y a pas de plan d'Urbicande.
Non, alors là, par contre, je dois dire que nous avons une petite faille spatio-temporelle au niveau de la ville d'Urbicande. Mais un peu comme dans les films de Cocteau où on passe à travers les miroirs, on pourrait imaginer qu'on s'évanouisse entre deux tiroirs et qu'on ressorte dans la nature à l'autre bout du monde. C'est sûr qu'on a ici un peu un monde en miniature et il y a largement de quoi s'y perdre. Et en tout cas, rêver, car la carte, ne l'oublions pas, est quand même aussi un outil pour le rêve.
Avec l'écrivain Éric Orsenna, dans les bas-fonds du Palais Garnier, nous pénétrons les soutes du bâtiment, au bord du célèbre lac de l'Opéra. Est-ce qu'on peut ouvrir la grille?
Oui. Garder en prison l'eau, prison l'énergie, comme s'il y avait trop d'énergie dans l'eau, et que si on dégageait l'énergie de l'eau, ça entraînerait peut-être des dérèglements. Donc il y a un escalier qui descend dans l'eau.
Il y a des gens qui sont aventurés dans cet espace?
Alors tout à fait, à peu près tous les mois, les sapeurs-pompiers de Paris viennent plonger dans cette cuve. Alors ils appellent ça plonger en surface non libre. Ils descendent même parfois avec des petits canaux qui gonflent et ils font des exercices de plongée pratiquement tous les mois.
Donc c'est un stade nautique sous la scène de l'Opéra de Paris.
Oui. Il y a une anguille.
Il y a une anguille.
Une anguille.
Une seule anguille.
Dans cette cuve, oui. Elle est nourrie régulièrement par un collègue pompier.
Ah, il y a un pompier qui est nourrisseur d'anguilles.
D'anguille.
Et donc là, il y a anguille sous opéra.
Sous opéra, effectivement.
Est-ce que l'anguille chante?
Non, mais la pauvre, elle n'a qu'un œil.
Bon.
Elle a eu le crochet qui s'est pris dans l'œil. Elle est infirme. Bon. Avec un œil.
Mais elle est affectueuse, elle est gentille avec les pompiers.
Avec les pompiers, ça va.
Éric Orsenna, on a un lac souterrain, un poisson borgne,
des plongeurs en milieu non libre. Est-ce que tout ça nous rapproche de ces cités obscures ?
Ça ne nous rapproche pas, c'est la preuve. C'est la preuve que sous la Seine, il y a des sous-sols. Sous les sous-sols, il y a des lacs. Dans les lacs, il y a des anguilles. Et d'après vous, pourquoi l'anguille a perdu un œil ? C'est qu'elle a vu ce qui n'était pas possible de voir. Je pense que il doit y avoir un congrès chaque année de tous les animaux mythiques qui vivent sous les villes soi-disant vraies et qui se racontent des histoires en se moquant des humains qui croient qu'ils n'existent pas. Je pense que sous Édimbourg, il y a le monstre du Loch Ness qui est le grand frère de l'anguille borgne. Demandez à Paris qui pense une seconde qu'il y a dans le lac sous la Seine de l'Opéra une anguille borgne. Alors que franchement, c'est un des corps les plus respectables de notre société, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers de Paris qui me le garantissent. Moi, je suis sûr que les villes sont superposées et que seule notre paresse nous fait rester à la surface et que le souterrain, c'est juste le plancher du ciel de la ville du dessous. Ces villes souterraines sont en fait les villes que nous avons à chacun de nous. C'est ce que nous ont montré les surréalistes. Surréaliste, c'est-à-dire à partir du réel, comment donner plus de possible au réel.
Et puis, les portes s'ouvrent sur, justement,
regardez ici, parce qu'il y a des sortes de volants. Et chacun a un nom et une utilité. Et celui en face duquel je suis, c'est-à-dire un volant rouge, il s'appelle Secours ordinaire contre-barrage du cadre lointain. On a vraiment l'impression d'être à la barre du Nautilus. Le cinquième dessous. Mais on est en plein dans la poésie. Mais dès qu'on descend en dessous du quatrième dessous, on est sans dessus-dessous. Alors il y a des grandes roues avec des cordages et on a vraiment l'impression qu'on va hisser la voile et partir. J'ai toujours eu l'impression d'ailleurs que quand il y avait tous les décors, que les décors étaient des voiles et qu'un jour l'opéra de Paris prendrait la mer.
Voici des années que le célèbre organologue Oscar Frobelius œuvrait à la préparation du grand festival d'orgue du Lac Vert. Le choix d'un site aussi reculé, à près de 1200 mégabrasses de la ville la plus proche, aux portes du désert des Sommonites, avait certes de quoi surprendre. Mais à en croire Frobelius, l'extrême profondeur du lac vert crée des conditions d'écoute exceptionnelles, permettant à l'auditeur de se retrouver véritablement immergé dans la musique.
sur ce lac, il y a des colonnes qui nous font penser, bien entendu, à des colonnes helléniques sur lesquelles les gens pouvaient s'asseoir, prendre place et écouter le concert. Et pour rejoindre en fait ces colonnes, effectivement, il y avait des systèmes de chaloupes, de barques, de petits bateaux électriques même qui se rendaient jusque-là.
Bruno Le Thor, musicien.
L'orgue qui était sur ce lac était un orgue qui en fait était suspendu, qui ne prenait pas du tout appui au fond du lac. Donc il y avait tout un système en fait de suspension assez étrange, mais qui permettait de laisser l'orgue au-dessus de l'eau. Et il y a eu beaucoup d'œuvres composées spécifiquement pour ce système d'orgue associé, utilisant bien entendu cette réverbération particulière qui est cette surface aquatique. On voit d'ailleurs sur cette image rapportée du lac vert, on voit des oiseaux. Et les oiseaux ont eu un rôle très très important parce que pendant très longtemps, on n'a pas compris comment les orgues étaient accordés. On a fini par trouver en fait que tous ces facteurs d'orgue avaient travaillé à partir des chants d'oiseaux. Et c'était toujours ce même oiseau, celui qu'on voit. Il y a un seul oiseau qui vit sur ce lac. Et cet oiseau-là a donné le référent de diapason à tous les facteurs d'orgue. Et on le voit très bien, on voit ces oiseaux qui volent vers les tuyaux des orgues parce qu'ils sont attirés, ils comprennent le langage de l'orgue. Pour eux, c'est logique, c'est leur langage, leur référent musical. D'ailleurs, on peut penser que le choix de ces orgues suspendus avec cette énorme structure au-dessus de l'orgue qui maintient l'orgue, c'est également, on pourrait y voir des perchoirs, mais ce sont des perchoirs. Ce sont des perchoirs qui permettent en fait aux oiseaux de vivre et d'être proches en fait du son qu'ils entendent.
Benoît, on est face à cet objet. Qu'est-ce que c'est, cette chose ?
Le pendule de Foucault, c'est un instrument scientifique. Hein. C'est une des démonstrations du mouvement de la Terre, une preuve. Mais son inscription ici, évidemment, à cause de la hauteur, crée une alliance très énigmatique. C'est un objet comme les machines de Galilée qu'on peut voir à Florence, qui a à la fois une vertu scientifique, une vertu pédagogique et une vraie dimension esthétique. C'est aussi un objet poétique par son installation, par sa lenteur. Ça, ce sont des dimensions que les habitants des cités obscures apprécient énormément. L'idée notamment que la coupure entre art et science, entre esthétique et technologie, qui sont des coupures très fortes dans notre monde, ces coupures n'ont presque pas de sens. La culture n'est pas réservée à une population spécialisée, très formée. Pratiquement tout le monde va pouvoir vous parler de sculpture, de musique, de photographie. C'est vraiment une culture très très partagée. Et ça, c'était assez excitant. Les différences sont sur des choses, somme toute, assez petites. Une place très réduite de la religion, par exemple, qui est plutôt étudiée comme une variété de la mythologie. Une idée de la campagne, assez pauvre, finalement. La culture est pratiquée dans des zones vraiment réservé à la culture, par exemple, très grande serre, extrêmement productive, et pour le reste, les forêts restent des forêts primaires, intactes, les déserts sont des déserts qu'on ne tente pas du tout d'utiliser, et donc, voilà, il y a cette idée que la ville est vraiment le lieu de la vie humaine. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, le monde des cités obscures ne propose pas des cités idéales. Politiquement, par exemple, c'est un monde très inégalitaire, souvent dur, les rapports entre les cités sont des rapports de méfiance réciproque. Alors il y a des bons côtés, par exemple, il n'y a pas de nationalisme. Le pays, la nation en tant que telle, ce sont des notions inconnues. Mais la fierté urbaine, l'idée que chaque ville doit en
remontrer aux autres. Au fond, les villes se comportent un peu toutes comme si elles étaient en situation d'exposition universelle et qu'elles devaient être la plus rayonnante. Il y a un souci, on peut dire, de l'apparence, de la façade. Généralement, on entretient très bien les villes. On n'hésite pas non plus à renouveler tout à fait une ville, avec l'idée que ça va changer aussi l'humeur de ses habitants. Que le style de la ville pèse sur vous, vous influence dans votre mode de vie et donc vous transforme en profondeur. La ville n'est pas un simple décor, elle joue un rôle, on pourrait dire quasi organique.
À nouveau avec Eric Orsena, nous arpentons la cour du Palais Royal.
Nous sommes à la partie sud du Palais Royal. C'est un haut lieu de la République et donc de la nation. Parce que derrière moi, il y a le Conseil d'État, où je suis resté 20 ans prisonnier de dossiers de droit administratif. Mais un soir, j'étais sur mes dossiers de contentieux administratif et il y avait cette cour carrée, un peu triste, entre donc le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture et le Conseil d'État. Et le lendemain, il y avait des colonnes rayées, blancs et blanches, qui étaient apparues dans la nuit, puisque la veille, elles n'y étaient pas. Ça voulait dire quoi, ces colonnes? Pour moi, la preuve, elle est claire. C'est que notre monde était en train de s'enfoncer, du moins dans cet endroit-là, et que le monde du dessous n'a pas voulu être écrasé par notre monde à nous. Et comme ils ont des connaissances technologiques, de technologies fondamentales que nous avons perdues, ils ont créé des soubassements en une nuit pour ne pas être écrasés, sous couvert d'œuvres d'art.
Pour être franc, entre nous, vous parlez des colonnes de Buren.
C'est le nom qui ont été donnés.
Et vous soupçonnez ces colonnes en fait, de provenir de manière presque auto-spontanée du monde obscur.
Je n'en sais rien, mais il y a eu un tel débat à ce moment-là. Alors, qui est Buren? À quel univers appartient Buren? Et quelles sont les complicités qui sont autour de Buren? Je n'en sais pas. En tout cas, j'ai lancé l'enquête au Conseil d'État. Je me suis rapproché des gens du ministère de la Culture qui avaient financé les travaux. Ils ont menacé de me rayer du Conseil d'État pour outrage à la vérité et à la vraisemblance. Donc il y a un dossier qui est prêt, que j'ai écrit avec des preuves. On m'a menacé, si jamais je révélais l'existence même de ce dossier, c'est la première fois que je révèle l'existence. Et en tout cas, s'il y a autant d'enfants autour de ces colonnes de Buren, s'il y a autant d'enfants, c'est qu'ils sentent bien que là est le signe d'une communication entre les deux univers.
Toujours à la lisière entre deux univers, la piste obscure nous mène à Radio France, avec l'écrivain et journaliste François Angelier.
Ben, on va essayer de savoir, d'en savoir un peu plus sur d'éventuels passages vers les cités obscures qui seraient dans les profondeurs de la maison de la radio. Ces passages existent bien évidemment. La maison de Radio France est un hommage architectural masqué aux cités obscures, notamment la tour. Puisque la tour centrale était bien sûr une sorte de duplicata en métal et verre de la tour inaugurale des cités obscures, la fameuse tour mythique, la tour initiale, la tour initiatique. Et c'est cette tour qui est justement peut-être la crête d'une autre tour plus importante, qui est une tour enterrée.
Descendons. On a un escalier de béton.
Dans l'obscurité la plus totale. Vous avez une torche.
J'ai une lampe d'explorateur parce que nous sommes déjà au deuxième sous-sol. C'est très impressionnant.
Simplement. Et le troisième sous-sol,
l'exploration continue.
Qui est en vue. Il n'y a pas de rampe, il ne manque plus que ça. Il n'y a pas de lumière, c'est ça surtout qui est important. Nous allons sûrement tomber.
Il est tombé dans le bois, il est tombé vers où ? Ah, un trou dans le mur.
Alors ici, dans ces souterrains remplis de mécanismes, est-ce que c'est par l'image, est-ce que c'est par l'atmosphère qu'on pourrait finalement trouver des porosités?
Ce qui est important, c'est de voir que tous ces mécanismes ne servent à rien. Ces mécanismes qui sont là uniquement pour nous faire croire que des machines fonctionnent, que des liquides circulent, qu'il y a là tout une technologie, ça ne sert à rien. C'est purement décoratif, c'est en définitive pour nous masquer l'essentiel.
C'est un leurre.
Voilà, c'est un leurre total, ça ne sert à rien. La seule chose qui sert, c'est peut-être les ouvertures, c'est les passages. Ce qui est important, c'est ce que nous avons sous les pieds, c'est-à-dire des silos qui ont été murés et qui contiennent des objets dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont. Je pense qu'il s'agit de tours à l'état germinatif, puisque vous savez que les tours ne sont absolument pas des édifices construits, ce sont des plantes qui sont en croissance permanente, et le seul moment où elles arrêtent de croître, c'est quand on les met dans l'obscurité. C'est le soleil qui fait croître les tours. Si vous voulez bâtir une tour, il ne faut évidemment pas bâtir des échafaudages, louer les services d'un architecte ou vous mobiliser de la pierre. Il suffit simplement de définir un espace et de la mettre au soleil et la tour pousse d'elle-même en une sorte d'arbre gigantesque et c'est le cas des cités obscures.
Comment se fait-il que vous, qui n'appartenez pas au noyau dur de la direction de Radio
vous
France,
en savez vous savez qu'il y a deux directions à Radio France. Il y a la direction exotérique que l'on connaît, qui est photographiée, interviewée, qui signe des documents directoriaux. Et puis il y a la direction ésotérique, la direction secrète. Les supérieurs inconnus de la maison, j'en fais peut-être partie, si c'est le cas, je ne vais pas vous le dire, bien sûr. Mais là, nous sommes confrontés au secret.
Nul ne sait ce qui serait advenu si le développement d'une mystérieuse structure cubique n'avait entamé une croissance phénoménale dans le propre bureau de l'urbatecte Eugène Robic. Ce cube initial se multipliait en même temps qu'il grandissait, de manière vertigineuse, tel un immense réseau. Il atteignait bientôt la rive nord, et toute la vie d'Urbiconde se trouva profondément bouleversée par ces événements.
Y a quelqu'un ?
On vous appelle.
Interpellé. Ah.
Là, très intéressant, on a un ascenseur qui ne donne sur rien. C'est un ascenseur qui vient de nulle part et qui ne va nulle part. C'est un étage qui n'existe pas.
D'ailleurs, il y a écrit sur l'ascenseur, attention, échelle.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est complètement incohérent. Si on continue dans ce labyrinthe de sous-sol, on parvient... Ah oui, là, vraiment, dans les vaisseaux du mécanisme.
Là, c'est très intéressant, là. Parce qu'on dirait qu'une forme géométrique inscrite dans du béton avec de la sueur, en définitive, c'est sûrement le pas d'un animal. Et d'un animal géométrique. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un animal à angle droit. Il y en a très peu. Et là, je pense qu'on a les premières traces d'un animal au sabot carré ou triangulaire, c'est assez difficile à définir. C'est donc pas qu'il y a un animal qui laisse des traces, mais qui inscrit des formes géométriques.
Il n'y aurait qu'un seul pied en plus.
Voilà, qui avance en sautant.
Dans les cités obscures, la cryptozoologie, ou science des animaux cachés, est la branche la plus importante de la zoologie. Les spécialistes entretiennent des conflits sans fin sur la nature exacte d'espèces entreaperçues une ou deux fois. Une chose est certaine. Aujourd'hui, ces questions demeurent brûlantes et peuvent donner lieu à de vives controverses.
François Angelier, toujours dans les souterrains de la Maison de la Radio à Paris, en France.
les gens qui ont voyagé dans ce monde ne décrivent pas du tout d'expériences fantastiques. Ils décrivent de passer soudainement d'un monde à un autre.
Non, ce sont des expériences ordinaires, quotidiennes, qui sont quasiment identiques à celles que nous pouvons vivre tous les jours, mais c'est ce quasiment qui crée l'événement. Et c'est cet événement que l'on cherche en vain à susciter. Je ne pense pas qu'on y arrive par les voies de l'aventure traditionnelle, de l'expérience scientifique, de l'inspiration artistique, même du trajet mystique. C'est quelque chose qui doit se faire sans y penser, par un léger décalage, une sorte de, ce que j'appellerais de foulure. Vous savez, quand on fait un pas de travers et on a une foulure. Là, c'est une sorte de foulure ontologique. C'est là où on rentre dans l'univers des cités obscures.
François Enjolier, face à nous, a un lave-œil individuel.
Les ruines de ce qui a été, sans doute, dans des époques archaïques, un lave-œil individuel. Et en définitive, je crois que c'est l'objet que nous cherchions depuis tout le début de notre promenade, c'est se laver l'œil. On se souvient que saint Paul dit que les écailles tombent des yeux de l'homme qui a la révélation. Eh bien, je pense que là, c'est une machine à libérer l'œil et une machine à faire tomber les écailles, à écailler les yeux, si on peut le dire. Et ce qui est très étrange, c'est comme vous pouvez le constater, ça n'est pas un rayon divin, ça n'est pas l'alambic d'un alchimiste, c'est une machine ordinaire, j'ai presque envie de dire toute bête. Et voilà, je crois que toute la solution de la quête est là, dans les ruines tordues d'un lave-œil individuel qui renvoie à sans doute au pas de côté. L'œil est lavé, on voit la vérité enfin, et c'est tout simple. Et sans tête que nous sommes passés. Dans la nuit essentielle de la cité obscure. C'est un soleil printanier d'ailleurs. C'est une lumière assez douce, un peu crépusculaire, un peu poudreuse, qui est une lumière calme.
C'était Cités obscures, un passage entre deux mondes, avec Benoît Peters, François Skuyten, Isidora Louis, Bernard Bèze, Eric Orsena, Bruno Lothor, François Enjolier. Et les voix d'Elina Lohenson et d'Antoine Beauchamp. Musique originale Bruno Lothor. Coordination, Catherine Libert. Aux consoles, dans notre monde, Jean-Michel Coqui, Jean-Michel Bernou. Mixage et prise de son dans le monde obscur, Pierrick Charles. Un documentaire de Laurent Védrine, réalisé par Céline Ters.
Sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez repartir vers les villes mondes imaginaires cités obscures et toutes nos escales à travers le monde, réelles ou rêvées, à écouter et podcaster sur franceculture.fr. Et notre voyage dans la carte, l'atlas imaginaire de ce pays mystérieux, continue dimanche prochain. Alors que Revoir Paris, l'exposition de Skuyten et Peters a lieu en ce moment à la Cité de l'Architecture, voyage dans la ville lumière. Bon passage dans le monde des cités obscures que nous continuons d'éclairer dimanche prochain 4 janvier 2015 à 15h, seconde escale. Et bon passage dans la nouvelle année.